Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes sur France 24 et Radio France Internationale. Bienvenue au cœur du quartier européen de Bruxelles, dans les studios de la Commission européenne pour un tour d'horizon de l'actualité en compagnie de son vice-président. Il s'agit du Slovaque Maros Šefčovič. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en charge à la Commission de la prospective et des relations interinstitutionnelles, ce qui vous oblige à essayer de régler des différends avec des pays tiers très proches, mais aussi, par exemple, à tenter d'assurer notre avenir énergétique. On va parler de tous ces sujets. L'un d'eux a vraiment marqué les Européens. C'est un accord, justement, le cadre de Windsor, pour faciliter la circulation des marchandises au sein du Royaume-Uni en évitant toute frontière physique sur l'Irlande du Nord. Il a été conclu début mars par la présidente de la Commission européenne avec le Premier ministre britannique conservateur Rishi Sunak, après effectivement de longs mois de tiraillements post-Brexit. Vous êtes ce négociateur post-Brexit. Est-ce que pour vous cet accord est bon et applicable ?
Oui, cet accord est bon et applicable. Et comme vous avez dit, c'était pas facile à réussir dans ce domaine parce qu'on a eu à peu près des ans de vraies tensions et de discussions difficiles. Mais je dois dire, avec la nouvelle équipe de Premier ministre Rishi Sunak, tout est absolument différent. Je dois dire que mes relations personnelles avec le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, ou le ministre d'Irlande du Nord, Chris Hitton-Harris sont magnifiques et je peux dire la même chose. La qualité des relations entre notre présidente Ursula von der Leyen et le Premier ministre Rishi Sunak sont, je crois, les témoignages qu'on veut ouvrir un nouvel chapitre dans nos relations, vraiment régler tous ces problèmes qui étaient parfois tout à fait difficiles pour le peuple d'Irlande du Nord. Et pour nous, c'était, comme vous savez très bien, très important de promouvoir la paix sur l'île d'Irlande, mais aussi en même temps de protéger l'intégrité des marchés uniques européens. Je crois qu'on a réussi dans tous les domaines. Maintenant, bien sûr, notre défi, c'est la mise en œuvre de cet accord.
D'ailleurs, cet accord, il a réussi à passer le cap du Parlement britannique, malgré l'opposition de certains, d'ailleurs, conservateurs dans le camp du Premier ministre, mais aussi du petit parti unioniste d'Irlande du Nord, viscéralement attaché à l'appartenance de la province britannique au Royaume-Uni, qui bloque les institutions politiques locales également. Le niveau de sécurité a été relevé. Vous n'êtes plus du tout inquiet d'un redémarrage des troubles ?
On est toujours inquiet, c'est pourquoi on a dit très clairement qu'on comprend que le parti d'unioniste a besoin de temps pour réfléchir, pour vraiment évaluer cet accord. Je suis absolument convaincu qu'on a démontré qu'on a vraiment écouté aux demandes dans le domaine d'agriculture, dans le domaine de contrôle douanier, dans le domaine de mouvement de personnes. Et c'est pourquoi c'est un accord qui est très politique et assez technique en même temps. On parle de presque de 250 pages de textes qui sont vraiment très, très techniques. Mais je crois que ça nous permettra de créer une condition pour l'Irlande du Nord qui a maintenant l'accès au marché unique européen et en même temps au marché unique britannique. Et on m'a déjà dit que l'intérêt d'investisseurs mondiaux, je peux dire, est très, très élevé. Je suis sûr que ça va aider l'Irlande du Nord. Avec cet accord, on aussi a ouvert un nouveau chapitre pour cet redémarrage économique.
D'ailleurs, les Britanniques, les Anglais même, se demandent si ça ne rouvre pas la possibilité d'adhérer au programme scientifique Horizon avec des financements de 80 milliards de livres sterling.
Oui, je peux confirmer ça. On va commencer cette discussion sur l'autre accord d'actualité. Accord du futur, accord sur la coopération et la commerce. Et là, bien sûr, il y a un chapitre sur la recherche, sur la coopération dans le domaine des sciences. Le Royaume britannique sera bienvenu dans notre programme Horizon. Mais bien sûr, on doit aussi discuter sur quelles conditions, quelles sont les contributions financières, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble. Je sais que les les hommes et les femmes scientifiques, les universités britanniques sont extrêmement intéressés de participer dans ces programmes. Et maintenant, j'espère qu'on va discuter ça aussi avec nos amis britanniques, faire tout ça si vite possible.
Alors, Maroševković, vous négociez aussi avec la Suisse, parce qu'en mai 2021, la Suisse a rompu toute négociation d'accord cadre pour homogénéiser sa participation au marché unique européen. Les Suisses craignaient la libre circulation des Européens et des travailleurs qui auraient accès aux prestations sociales helvètes. Les Suisses, en fait, pourraient gagner au change de rédiger un nouvel accord, notamment une réintégration, là encore, au programme européen de recherche, qui sont très importants. Et nous, qu'est-ce qu'on gagnerait d'ailleurs ?
Je peux dire que nous avons l'occasion d'améliorer, de moderniser aussi, de se préparer ensemble pour l'avenir de notre relation entre l'Union européenne et la Suisse, notre quatrième partenaire commercial. Et bien sûr, la Suisse est au cœur de l'Europe et c'est pourquoi je crois que c'est vraiment très important aussi de régler tous nos différences. Je crois que ça aussi va ouvrir les nouvelles possibilités pour l'Union européenne, mais aussi pour les Suisses. Et c'est pourquoi je suis assuré que maintenant je peux partager avec vous que je sens qu'il y a une nouvelle dynamique dans nos négociations. J'ai la possibilité de rendre en visite à la Suisse il y a deux semaines et j'ai discuté avec tout le monde, avec le ministre des Affaires étrangères, M. Cassis, mais aussi avec les partenaires sociaux, avec les représentants des cantons. Dans ce monde, avec la géopolitique tout à fait différente, très, très dure, les partenaires et les amis européens doivent travailler ensemble d'une manière plus proche.
D'ailleurs, vous parlez de géopolitique, mais c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine, les prix qui flambent pour les Européens. On a vu des grandes grèves en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique. Est-ce que vous vous inquiétez de cette grogne sociale ?
Je suis d'accord avec vous que maintenant, ce n'est pas facile pour les ménages. En Europe, c'est tout à fait pas facile pour les opérateurs économiques. Ce sont vraiment les prix élevés pour l'énergie, l'inflation qui est assez élevée aussi. Et c'est pourquoi on doit travailler ensemble, les pays membres, les institutions européennes, pour pousser les prix énergétiques et pour répondre cette inquiétude, à l'inquiétude de nos citoyens qui ont vraiment travaillé ensemble pour améliorer les conditions de la vie en Europe.
Alors l'Ukraine, on est au chapitre de l'Ukraine. Elle a commencé à recevoir ses premiers chars lourds livrés par les Occidentaux, des chars britanniques mais aussi allemands sont arrivés sur le sol ukrainien. D'autres livraisons sont promises alors que la Russie agite dans le même temps la menace de déployer en Biélorussie des armes nucléaires tactiques. Le point tout de suite avec Alice Broja.
C'est l'arme tant attendue par Kiev pour contrer l'invasion russe, les chars Léopard 2. Lundi, le chancelier Olaf Scholz a confirmé la livraison à Kiev de ces chars de fabrication allemande lors d'une réunion avec son homologue néerlandais.
Oui, nous avons livré des chars Léopard, comme nous l'avions annoncé. L'Allemagne et les Pays-Bas ont livré conjointement des véhicules blindés de combat, d'infanterie et des munitions et préparent actuellement avec le Danemark la livraison de chars de combat principaux Léopard 1 pour soutenir l'Ukraine de cette manière également.
Selon la presse allemande, 18 chars Léopard 2 ont été livrés par Berlin, ainsi qu'une quarantaine de véhicules de combat d'infanterie Marder. Des blindés réclamés durant des semaines par Kiev pour leur puissance de feu, leur capacité à combattre tout en se déplaçant et leur protection contre les mines et les lance-roquettes. Sous la pression de ses alliés, Olaf Scholz avait fini par céder fin janvier pour autoriser leur livraison. Depuis, les envois s'enchaînent. La Finlande a livré 6 Léopard 2, la Norvège 8, la Pologne 14. Dans un message Facebook, le ministre ukrainien de la Défense, Alexei Ryzhkinov, a confirmé aussi la livraison de chars de combat britanniques Challenger. Avec ces chars, Kiev compte renforcer son armée pour lancer une contre-offensive au printemps. En réaction, la Russie intensifie ses menaces contre les Occidentaux avec son projet de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie.
Monsieur le vice-président de la Commission, beaucoup d'inquiétudes véritablement sur cette guerre qui perdure au-delà des un an. Est-ce que l'Union en fait assez pour que les Ukrainiens gagnent ?
Bien sûr, on peut dire ça seulement pour la victoire ukrainienne, mais je peux dire qu'on a fait tout possible parce que de premiers moments, de premières journées, nous étions à côté des Ukrainiennes. Je suis en très bonne relation avec le premier ministre Shmyhal. Je l'ai téléphoné quelques jours après que la guerre a déclenché. Et simplement, c'était absolument clair que les Ukrainiens sont très courageux, qu'ils sont prêts de défendre leur pays, qu'on a vraiment besoin de les aider. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, on a consacré presque 70 milliards d'euros pour pas seulement soutenir les Ukrainiennes, mais aussi pour soutenir les pays européens qui ont offert les abris pour les réfugiés. Et quand j'ai expliqué tout ça aux États-Unis, qu'à un certain moment, on a plus de 8 millions de réfugiés de l'Ukraine et que c'était vraiment les citoyens européens qui sont ouvrir les portes, qui sont ouvrir les maisons, qui sont ouvrir les écoles, les hôpitaux pour les Ukrainiens. C'était aussi pour nos amis américains extrêmement impressionnant. Et en même temps, je suis absolument convaincu qu'on doit continuer de les aider parce que ce serait un très, très important. Et on voit que les Ukrainiens ont besoin de notre soutien financier, notre soutien politique dans le domaine des armes, des munitions.
Alors justement, le domaine de la défense, la Finlande va réussir son adhésion à l'OTAN car il n'y a plus de blocage, mais la Suède, elle, est toujours bloquée par la Turquie qui veut l'extradition des opposants à Recep Tayyip Erdogan. Et puis il y a aussi le gouvernement hongrois de Viktor Orban qui a dénoncé à plusieurs reprises les mensonges répandus par des responsables suédois, les supposés mensonges donc sur l'état de droit en Hongrie. Est-ce que vous déplorez ce double veto?
Oui, je crois que c'est tout à fait très très malheureux parce que bien sûr, la Finlande et la Suède seront les pays qui vont contribuer d'une manière très très important pour la sécurité et la défense de l'Europe, des pays de l'OTAN. C'est pourquoi je sais que mes collègues diplomates de l'OTAN, mes collègues finlandais, suédois, ils ont une négociation permanente avec l'Hongrie, avec la Turquie, parce que je crois que tout le monde va bénéficier quand la Finlande, la Suède vont devenir les membres officiels de l'OTAN.
Je rappelle que vous êtes slovaque, effectivement, plutôt social-démocrate. La Slovaquie, c'est un pays qui appartient à l'Est au fameux groupe de Visegrad, avec la République tchèque, la Pologne et la Hongrie. Mais la Hongrie semble s'être isolée de ses trois voisins, justement, et partenaires, à cause de l'ambivalence du Premier ministre Viktor Orban, proche de Vladimir Poutine et qui, sur la guerre en Ukraine, n'est pas très clair. Et puis Orban qui héritait en particulier la Slovaquie parce qu'il a porté une écharpe de supporters de la Hongrie avec les frontières antérieures au traité du Trianon qui incluait la Slovaquie.
Bien sûr, je crois qu'après cette écharpe avec cette symbolique qui est très très controversée en Europe et bien sûr en Slovaquie, je crois que c'était un très bon geste que le premier ministre slovaque a donné les écharpes avec aussi la carte de la Slovaquie au premier ministre hongrois. Mais bien sûr, nous sommes en même région, nous sommes les voisins et c'est pourquoi on doit travailler d'une manière diplomatique et politique avec le Premier ministre hongrois parce que c'est très très important que notre région qui est sur la frontière avec l'Ukraine, qui est, je crois, le plus affecté par la guerre en Ukraine, et les citoyens ont démontré comment on sont prêts à soutenir les Ukraines pendant cette crise de réfugiés après le déclenchement de la guerre. C'est pourquoi on doit travailler avec les Hongrois, pas seulement pour le soutien pour l'Ukraine, mais aussi pour le soutien pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN.
Mais parce que ce groupe de Visegrad, qui était d'ailleurs un peu sur des positions eurosceptiques, dans un bras de fer avec Bruxelles sur beaucoup de sujets, notamment les migrants, est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui?
Vous avez raison sur, par exemple, la question des droits, sur la question de l'adhésion, la Slovaquie, la Tchéquie, sur un côté, la Pologne, l'Hongrie, à l'autre côté, mais la composition est tout à fait différente si on discute les soutiens pour l'Ukraine. Mais en même temps, ce qui est très important en Europe, les amis, les voisins qui sont plus proches doivent être en position d'avoir aussi les débats, les discussions les plus ouverts, les plus honnêtes, les plus franches, et ce qui se passe maintenant parmi les pays Visegrad.
Vos concitoyens slovaques, au dernier Eurobaromètre, montrent qu'ils se méfient à 53% de l'Union européenne, comme d'ailleurs les Français, mais c'est bien supérieur à tous les autres. En tout cas, la veille de l'invasion russe en Ukraine, plus de la moitié des Slovaques jugeaient que les États-Unis et l'OTAN étaient responsables de cette guerre. Et en septembre, ils souhaitaient que la Russie gagne, plus de la moitié. Pourquoi ?
Je crois que c'est à cause que nous sommes une nouvelle démocratie. Et chez nous aussi, cette guerre d'information, de guerre de désinformation est très, très présente.
Pro-russe, vous voulez dire russophile ?
Oui, je peux dire russophile, mais je peux dire aussi les conspiracies différentes sur vraiment la désinformation. Je dois dire que aussi c'est le sentiment que c'était le Russe, l'Union soviétique, qui a libéré la Tchécoslovaquie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup par les médias comme ça, qui par les sites de l'Internet différents. Et en même temps, je crois que c'est aussi une combinaison avec la situation sociale dure. On a une inflation qui est assez élevée, comme je dis, les prix d'énergie qui sont assez élevés. Tout ça, je crois, c'est un résultat qui était reflété dans ces baromètres. Mais je sais très bien que mes concitoyens sont par nature optimistes. Je me souviens toujours de cette euphorie, je peux dire, après cette adhésion à l'euro, à Schengen. Et je suis sûr qu'on va se revenir dans ce domaine de positivité et soutien pour le projet européen.
Les pays de l'Union européenne prévoient de signer des premiers contrats gaziers conjoints dans les mois à venir afin d'aider à remplir les stocks avant le pic du prochain hiver. Vous dirigez ces achats conjoints de gaz pour l'Union européenne avec une plateforme qui démarre en mai. À quoi ça sert ? Vous en attendez quoi ?
Oui, parce que c'était une décision claire de leader européen, du Conseil européen, parce que simplement c'est impossible qu'on va continuer à payer les prix si élevés pour le gaz qu'on a payé l'année dernière. Et d'être complètement honnête et ouvert aussi aujourd'hui. On doit utiliser d'une manière beaucoup plus efficace notre poids politique, notre poids économique, notre marché unique pour simplement être en position de diminuer le prix des gaz. Ce qui se passe maintenant est qu'on a déjà ouvert notre plateforme pour la registration pour tous les opérateurs qui utilisent gaz, qui vendent le gaz pour travailler ensemble.
Compris les Ukrainiens d'ailleurs.
Y compris les Ukrainiens, les Moldoviens, aussi les Serbes, parce qu'ils ont aussi exprimé leur volonté de participer dans cet effort. Et vous avez raison, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, on va organiser cet achat. Comment c'était l'appel à d'offres en mai de cette année. Et on va répéter cet exercice presque chaque mois jusqu'on va aboutir à obtenir assez d'approvisionnement de gaz pour notre stockage, parce qu'on doit éviter la situation qu'on a eue en août dernière, parce que ça poussait les prix d'une manière, je crois, inacceptable. Et c'est pourquoi on maintenant travaille aussi avec le fournisseur de gaz de stabiliser la situation, parce que c'est très important pour la compétitivité de notre économie.
Voilà, la solidarité pour payer moins cher. Merci, oui. Monsieur le vice-président de la Commission, Maro Sefcovic, d'avoir été notre invité sur France 24 et RFI. À très bientôt à tous sur nos deux antennes.